Bonjour, oui, je suis bien à Lyon, en compagnie du poète Marc-Henri Harfeu. Marc-Henri, bonjour.
Bonjour Béatrice.
Marc-Henri Harfeu, pour vous présenter, je reprendrai ce que j'ai lu sur votre site, à savoir que vous êtes né à Lyon en 1962. Après des études de philosophie et de littérature, vous vous êtes partagé entre l'écriture, la peinture, la composition électroacoustique et la photographie. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages dans différents domaines, romans, nouvelles, essais et, pour ce qui nous intéresse ce soir, la poésie. Vous collaborez régulièrement à la revue Souffle. Vous avez également publié plusieurs disques, dont certains sur label numérique. Certaines de vos pièces électroacoustiques prennent la forme de vidéocompositions. Votre travail pictural emprunte plusieurs directions, dont la peinture sur toile ou sur papier, ainsi que la réalisation de livres objets, donc uniques. Vous développez également un travail photographique fondé sur le double principe de l'abstraction figurative et de la captation d'œuvres éphémères réalisées en plein air à l'aide de matériaux naturels. Ces différentes démarches participent d'une même interrogation, la vôtre, celle de l'énigme de l'existence et du monde par leurs moyens spécifiques mis en dialogue. Je dirais, Marc-Henri, que voilà une vie bien remplie.
Oui, c'est vrai. C'est surtout, je dirais, une vie d'exaltation et même d'exultation, puisque c'est aussi en réponse à des sollicitations vraiment très concrètes, très immédiates, que j'ai toujours eu envie de déployer ces orientations pour leur donner forme. Accompagné de lueurs, de réponses et aussi d'autres questions, cette sollicitation.
Eh bien, nous allons approfondir tout cela. Mais avant, voici les informations relatives à l'activité de l'association Les Mots d'Azur. Et notre prochain rendez-vous, c'est demain, vendredi 15 décembre. Yves Hugues lira ses poèmes. Donc rendez-vous à 19h, salle Courteline à Mougins. Revenons à notre invité, le poète Marc-Henri Harfeu, que je suis allée rencontrer à Lyon. Et pour commencer l'entretien, j'aimerais que vous nous lisiez ce poème, Marc-Henri, intitulé « Lointaine, la beauté fine ».
Lointaine, la beauté fine est ascension. Roseraie de neige formant une maison claire sur la fumée du bleu. Le monde ainsi donné rejoint l'enfant de son visage en un matin, et ton regard ouvre les passes au plus léger de la lumière. Le jour alors te reconnaît, la buée rouge des fleurs, un chant qui tout le jour accompagne mes yeux, tandis que je traverse avec la brise et l'alouette ce monde abandonné.
Merci pour cette lecture. Alors ce poème, parmi tant d'autres, mais c'est celui sur lequel mes yeux se sont attardés, symbolise, selon moi, votre rapport au monde. On sent derrière vos écrits une dimension que l'on appelle spirituelle ou que l'on pourrait tout simplement nommer connexion au plus grand que nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, c'est tout à fait cela. C'est doublement spirituel, dimension spirituelle et connexion au monde. Parce que je pense que d'abord, avant toute quête transcendante, nous sommes reliés, du moins nous le saurions si nous étions attentifs. Et il m'a toujours paru que le monde était à la fois une expérience, une présence, et en même temps, comme je le disais déjà tout à l'heure, une sollicitation, une question. Par son énigme même, cette énigme que vous avez mentionnée au début de votre propre présentation. Donc il y a bien effectivement dans cette relation au monde une volonté d'entrer dans cette question, d'entrer dans cette énigme et en même temps dans tout ce que le monde a d'abandonné au double sens du terme. Le poème mentionne d'ailleurs cette expression. Abandonner ce qui est délaissé, ce qui est laissé à l'abandon. Et il est vrai que le monde non seulement est laissé à l'abandon par les hommes la plupart du temps, puisqu'ils consacrent, comme le disait Julien Gracq, beaucoup de temps à l'agir. Il disait, je cite de mémoire, « Tant de mains pour faire le monde, si peu de regards pour le contempler. » Délaissé aussi parce que le monde semble être jeté en lui-même d'une façon qui est à la fois souveraine et désarmante. On y est comme égaré, comme perdu au moment même où nous constatons cette présence qui nous submerge par sa beauté et son étrangeté. Et puis abandonné aussi peut-être dans le sens non pas d'un laisser-faire qui consisterait à justement l'inscrire dans les utilités, seulement ce que font beaucoup les hommes, mais abandonné à notre écoute, à notre cheminement vers lui et à travers lui vers nous.
Alors là, je sens poindre derrière la notion de responsabilité aussi, quelque part.
Ah oui, sûrement, parce que cette responsabilité, elle est à différents niveaux, je dirais. D'abord, une responsabilité face au monde, en tant que tel. On le mesure à notre époque, hein, à travers tous les ravages que les hommes ont fait subir à la Terre, à leur propre écosystème et aux êtres vivants qui s'y trouvent, avec la menace qui pèse sur les générations à venir, la modification poignante, parce qu'irréversible, qui est en train de s'accomplir et qui est un déchirement pour tous ceux qui auront connu l'avant. Et nous sommes encore nombreux à avoir connu l'avant. Le problème se posera peut-être très différemment pour les générations de l'après, ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas moins douloureux et difficile. Donc il y a déjà cette responsabilité-là, et le poème est une façon de revendiquer ce désir de retrouver le lien avec le monde sur un terrain qui soit celui d'une innocence, mais j'ai bien peur que ce soit plus l'innocence du monde que de nous-mêmes. Donc c'est une responsabilité éthique envers le monde et envers tous ceux qui s'y trouvent, et j'aurais presque envie de dire... En pensant à ce passage de Dersu Uzala de Kurosawa, où un personnage parle des gens auxquels il faut laisser quelque chose à manger dans la forêt, bah, tous les gens qui s'y trouvent, c'est-à-dire aussi toutes les bêtes, tous les êtres vivants, et pas simplement les hommes, qui ont tous des personnalités à l'intérieur de ce grand système. Et puis aussi parce que ce monde, il a quelque chose d'unique. Qu'il soit donné par lui-même, par le hasard des choses, ou qu'il ait une dimension spirituelle plus secrète, il n'en reste pas moins que, quelle que soit la réponse qu'on donne, il a une unicité irremplaçable. Et moi, je suis convaincu, par exemple, d'une chose, j'ai toujours pensé depuis des années à cela, c'est que s'il devait vraiment y avoir un jugement dernier, on ne demanderait pas aux gens ce qu'ils ont fait, parce que ça, à mon avis, ce serait déjà connu, donc la chose serait déjà établie. Mais on leur demanderait plutôt, ce qui est beaucoup plus important à mon avis, et toi, de quoi as-tu été témoin ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a été ton être au monde ? Qu'est-ce que tu as vu ?
Alors, vous avez fait de la philosophie, on parle de responsabilité et d'éthique. Est-ce que Lévinas est quelqu'un qui vous a apporté, qui vous a nourri ?
Oui, parce que particulièrement dans l'œuvre de Lévinas, il y a deux choses qui sont très fécondes pour moi. D'abord, la première, c'est très célèbre, c'est le rapport au visage. Hein. La source du sentiment éthique n'est pas dans un principe abstrait qu'il y aurait à étudier pour le connaître, mais dans l'évidence de la relation au visage d'autrui. Et on comprend mieux ensuite, quand on a pris acte de cela par la lecture de ce penseur, à quel point beaucoup d'hommes ont des stratégies de déni du visage, et que toutes se ramènent à une forme d'agression de la personne humaine par le refus de la constater. Donc oui, tout visage, de ce point de vue-là, devient la source d'une interrogation, et même au-delà de l'homme, on ne parlerait sans doute pas du visage de l'animal, des animaux, encore qu'on pourrait se poser la question, franchement. En tout cas, ce n'est pas dans l'usage, mais on pourrait poser la question... Il y a des face-à-face qui sont d'une bouleversante clarté, et cette clarté est en même temps très très mystérieuse, je pourrais en dire un d'ailleurs tout à l'heure si vous le voulez, que j'ai vraiment vécu, qui nous montre que la responsabilité s'étend au-delà de la sphère de l'humain. Même vis-à-vis d'espèces qui nous paraissent très lointaines, avec lesquelles nous avons moins de connivence possible ou supposée. Et puis il y a autre chose qui chez Lévinas m'a frappé, mais ça se relie d'ailleurs, c'est cette idée que l'autre, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut penser comme le similaire, le même. Il y a un très beau passage où il dit le camarade, le semblable, etc. Enfin, toute une liste de termes de l'équivalence, mais il dit l'autre, c'est aussi le tout autre, l'étranger, voire celui qui est l'adversaire, l'inquiétant, bref, celui qui sollicite par le fait même qu'il déstabilise et qu'on ne s'y retrouve pas avec lui. Or, c'est bien cela, l'autre aussi.
Moi qui suis plutôt du côté des Indiens d'Amérique, pour tout Indien d'Amérique, l'animal est le professeur, est l'enseignant. Et donc, je ne vais pas attendre, moi, pour l'anecdote et la rencontre avec l'animal. J'aimerais bien que vous nous racontiez ça tout de suite, Marc-Henri.
Alors, je vais le faire en précisant que moi, je n'ai pas l'expérience directe de la culture américaine, mais je l'ai eue dans mon enfance à travers des livres. C'est vrai que j'ai beaucoup lu, quand j'étais enfant, par exemple James Oliver Curwood. On voit bien, par exemple, dans les figures des loups, qui est un animal qui m'a fasciné dans mon enfance, à quel point il y a bien une sorte de présence-visage. Et puis je me rappelle d'un film de Roger Frison-Roche sur le Grand Nord canadien, où il y avait des animaux extraordinaires, comme les bœufs musqués. Mais l'expérience que j'ai vécue, elle est dans un autre contexte que celui de ces grandes étendues sauvages. Elle est celle d'un zoo au printemps, pas très loin de Lyon d'ailleurs, dans la région de Belleville, dans le Beaujolais. J'avais accompagné des amis qui avaient des enfants à l'époque, en âge d'aimer aller voir les animaux dans les ménageries. Comme c'était le début du printemps, tous les animaux présents étaient de sortie. Et à un certain moment, je suis rentré dans une sorte de petite maisonnette, qui était en fait un passage qui permettait de voir dans leur cage ceux qui s'y trouvaient. Et il y avait un orang-outan, tout seul, qui n'était pas sorti, qui était derrière une paroi en verre, et très près de cette paroi en verre. Donc je me suis approché. J'ai posé mon front contre la paroi de verre, il en a fait autant de son côté, et nous nous sommes vraiment trouvés pendant plusieurs minutes, les yeux dans les yeux, d'une façon extrêmement troublante, parce que d'abord cette paroi transparente mais infranchissable symbolisait notre situation de rencontre et d'énigme insoluble, et d'autre part parce que, outre que je sentais l'attention, l'intelligence, le discernement dans le regard de l'animal qui me regardait et que je regardais, j'étais très surpris qu'il ait une attitude qui est exactement le contraire de ce qu'ont très souvent les animaux avec l'homme, c'est-à-dire de détourner les yeux. Et là, tant que je suis resté, il est resté dans cette attitude d'attention. Et une attention tellement proche qu'elle était presque comme un souffle d'humanité ou d'animalité mentale, je ne sais pas trop comment le dire.
Mais l'orang-outan, c'est l'homme des forêts.
Oui, c'est l'homme des bois, oui, tout à fait, tout à fait.
Donc c'est un homme, c'est un humain, oui. Et vraiment les singes ont des regards extraordinaires. Selon moi, il y a parfois dans vos poèmes quelque chose de l'ambiance des poèmes japonais, que l'on appelle les haïkus, et qui ont connu un engouement en Europe il y a de une à quelques dizaines d'années. Et je me souviens avoir lu un article de vous, Marc-Henri, sur le site Terracial, consacré à cette forme poétique. Alors, pouvez-vous nous dire d'abord ce qu'elle vous apporte en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, et pouvez-vous ensuite nous éclairer sur cette influence venue du Japon ? Et je m'empresse aussi de faire remarquer que, au Japon, les femmes se sont très tôt illustrées en littérature. Ça, c'est ma petite note féministe.
Alors, je vais justement commencer par là, parce que je suis totalement d'accord. En l'an 1000, au moment où en Europe on est en pleine domination du pouvoir des hommes dans tous les domaines, c'est l'époque de l'Empire carolingien, effectivement au Japon apparaissent de grandes voix qui vont, pour ainsi dire, porter avec elles la naissance de la littérature en japonais. Je pense par exemple, et je suppose que vous songez à elle, à Murasaki Shikibu, l'auteur du premier grand roman japonais, le dit de Genji, qui a aussi écrit des poèmes, un journal. Mais il y a également sa contemporaine, Sai Shonagon, qui a écrit les notes de chevet ou les notes écrites sur l'oreiller. Enfin, il y a différentes traductions possibles. Et puis des poétesses qui sont présentes même dans l'imaginaire japonais à cette époque comme étant parmi dans les listes des meilleurs poètes. Donc c'est quelque chose qui est effectivement très émouvant de voir cette reconnaissance de la plénitude créatrice du féminin dans une culture qui était pourtant une culture masculine, hein, par ailleurs. C'est très 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 étonnant et moi ça me touche beaucoup en tout cas. Alors s'agissant des formes de haïku, ça c'est d'ailleurs un petit peu après, parce que le haïku en fait est vraiment apparu au XVIIe siècle, alors qu'en l'an 1000, à l'époque dont nous parlions, à l'époque de toutes ces dames, c'est plutôt le tanka qui est en cinq vers, et puis ça va se rétrécir et arriver au haïku, dont Bachot, on le sait, a été vraiment l'un des grands, mais pas le premier grand promoteur, si on peut dire, créateur dans la dignité, en quelque sorte, du genre. Moi, j'ai un rapport très libre par rapport à ça, qui est à la fois un rapport d'admiration, de passion, parce que j'aime beaucoup cette culture, même si je ne parle pas le japonais et ne suis jamais allé au Japon. Mais j'y ai vécu mentalement à travers les œuvres de ces grands poètes, écrivains, artistes, qui sont... Je dirais les guides dans cette culture, pour moi. Mais j'ai un rapport très libre, c'est-à-dire que je ne cherche pas à faire des haïkus. Mais de temps en temps, il se trouve que je me rends compte, bah oui, il y a des tercets. Et d'ailleurs, je ne respecte pas forcément des règles canoniques, non. D'autant plus que les grands maîtres, ça je l'ai appris à force de les lire et de lire des commentaires, ne les respectaient pas toujours quand ils avaient une bonne venue. À quoi bon vouloir obéir à un formalisme si on a trouvé une respiration qui est la vraie? Voilà, moi je le vis comme ça. Mon objectif n'est pas d'écrire des haïkus, mais quand il y a des poèmes qui y ressemblent, eh ben ma foi, j'en prends acte et je l'accueille volontiers.
Alors je vais lire un de vos poèmes, écrit à Lyon en décembre 2019. Traverse le poème de ton poème. Oublie les nombres et les blasons. Défais les mots de flamme et de reflet. Ne réponds qu'au silence, par un autre silence, en un chemin d'éloignement, ne conservant entre tes mains que ce très peu de terre, de mousse et de rosée parmi la brume. Épouse le paysage de tes non-lieux, successivement donné, marchant selon l'absence et la buée du monde errant qui te ressemble. Te suit et te précède le fin présage de la rivière cerné de rochers nus au jeu de neige. Un arbre seul, en haut du vide, attend que tu rejoignes sa ligne d'ascension. Alors ce poème, je l'ai presque lu comme un art poétique, ou bien un art artistique, puisque vous pratiquez plusieurs disciplines artistiques. Est-ce que vous revendiqueriez ce poème comme tel, un art poétique ?
Ben, je l'avais oublié et en l'entendant lu par vous à l'instant, oui, j'ai vraiment le sentiment qu'il est emblématique, je dirais, d'une intention qui me porte, c'est-à-dire effectivement l'éloignement d'abord. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là. J'ai même écrit un récit qui était paru en 2014 qui s'appelle ainsi, l'éloignement. Et il y a vraiment cette idée, effectivement, qui est central sans doute de s'éloigner de toutes sortes de choses, à commencer d'abord de soi-même, dépouiller toutes les pelures de cet oignon qu'on appelle l'ego, et qui est pourtant plein de vide, pour arriver vraiment à enfin entrer de l'autre côté, passer une frontière, qui suppose effectivement ce délaissement, cet éloignement, en soi-même et loin de soi-même, et de quasi-silence dans les mots. Alors ça, c'est quelque chose qui peut peut-être étonner, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de plus en plus, notamment à travers des poèmes que j'ai écrits ces dernières années, et même cette dernière année, c'est vraiment cette idée qu'en fait, il y a une exploration de silence qui est en fait une façon d'atteindre une parole beaucoup plus juste. Parce que arrivé à ce stade-là, parole et silence ne sont plus les opposés de ce qui sonne et de ce qui cesse de sonner, mais deviennent au contraire une espèce de forme dans l'invisible, de tracé qui ouvre une voie, même si elle est peut-être parfois très très étroite, elle devient très sûre à force, très sûre et très légère.
À vous entendre, j'ai l'impression, quelque part, qu'il y a Emily Dickinson, Paul Celan, des gens comme ça par derrière. Et cette forme d'éloignement me fait penser à la pensée apophatique. Vous voulez développer un petit peu ça ou bien ?
Si, si, mais moi je me reconnaîtrais tout à fait dans les figures que vous nommez. Par exemple, justement, Emily Dickinson ou Paul Celan. Et quant à la pensée apophatique, c'est certain que je le théorise pas, si vous voulez, quand j'écris, mais ça se fait de soi-même, en fait. J'ai vraiment le sentiment, pour bien me faire comprendre, qu'en fait, quand j'écris, les poèmes, pour moi, sont des pas qui sont déposés au fur et à mesure d'une route pour être chacun dépassé, mais chaque pas est en même temps comme une lampe qui éclaire quelque chose et qui permet le suivant et qui permet d'avancer. Donc, il y a là quelque chose, un exercice qui fait que le poème, pour moi, en tout cas, il est fait pour être traversé et pas pour y séjourner d'une façon qui serait une forme d'idolâtrie du poème par lui-même ou par son auteur. Et vous savez qu'il y a, ça existe parfois, y compris chez des très grands poètes qui ont ce rapport idolâtre à leur propre poésie. Alors, je pense que vraiment les poèmes, il faut les dépouiller d'eux-mêmes, en quelque sorte, en les déposant et en les traversant. Là, cet été, par exemple, j'ai travaillé sur toute une série de poèmes qui sont nés des retrouvailles avec quelqu'un que je n'ai jamais rencontré en réalité, mais qui m'a énormément marqué. Vous évoquiez un poème de 2019. Eh bien, en 2019, j'ai eu l'occasion de voir à la télévision, pendant les vacances d'hiver, un film document qui avait été réalisé autour d'une moniale tout à fait originale du Tibet. Elle s'appelle Annie Rikzang. Et donc, ce film, je l'ai retrouvé par hasard à force de chercher depuis des années, à le retrouver. Je l'ai enfin retrouvé. Je me suis mis à écrire des poèmes où, en fait, je marche avec elle. Voilà. Je crois que c'est la meilleure réponse que je puisse donner à votre question. Marcher avec Annie Rikzang, qui est une femme absolument merveilleuse. Elle a un visage extraordinaire, qui est émouvant et lumineux.
Alors, on est vraiment pas loin, là, entre le bouddhisme et ce que je vais dire maintenant. Il m'est aussi apparu, puisque mon ancrage est plutôt du côté des Amérindiens et non pas en Extrême-Orient, il m'est apparu que votre désir de beauté rejoint le concept des Indiens Navajo qu'ils nomment Ho-Jon. Alors on prononce Ho-Jon, mais ça s'écrit H-O-H-Z-O. Ce concept mêle trois mots, trois notions qui sont paix, harmonie et beauté. Comme si la somme de deux d'entre elles donnait pour résultat la troisième, telle que beauté plus paix égale harmonie, ou bien harmonie plus paix égale beauté, ou encore harmonie plus beauté égale paix. Seriez-vous d'accord avec cette analyse et pouvez-vous approfondir cette aspiration vers la beauté qui est la vôtre ?
Ah oui, alors là vraiment, je trouve que c'est extrêmement émouvant et éclairant ce que vous venez de m'apprendre, parce que j'ignorais cela. J'ignorais cette équivalence entre ces trois polarités du beau, et on a envie de dire que les Navajo, on dit Navajo, moi je pensais que...
Alors, en réalité, ça peut être les Dinés.
Ah.
Les Indiens Dinés. Les Navajo, c'est les colons espagnols qui leur ont donné ce nom, qui leur est resté, mais leur vrai nom est dans leur langue à eux... C'est Diné, et le pays qu'ils habitent, c'est Dineta.
Alors on va les appeler par leur vrai nom, donc les Dinés. Ben, c'est extraordinaire, parce que avant que vous ne m'interrogiez, que nous nous retrouvions pour engager cet entretien, j'étais en train de lire les 5 méditations sur la beauté de François Cheng, oui. Et où il dit exactement, par la même intuition, ce qui prouve à quel point elle est centrale, fondamentale, puisqu'elle peut être apparue dans des cultures si éloignées temporellement et géographiquement. Il dit la même chose, c'est-à-dire que la beauté ne saurait être pensée comme une catégorie purement esthétique, ainsi qu'on le fait d'ailleurs très souvent en Occident, et ainsi que toute l'histoire des théories du beau l'ont propagée, mais elle doit être aussi éthique, et donc liée effectivement à une expérience de l'harmonie, à une expérience d'une paix recherchée, pas toujours trouvée, on le sait bien, et même moins que jamais aujourd'hui, mais elle est d'autant plus nécessaire. Mais à condition qu'on comprenne bien, et ça moi je me bats pour cette idée-là, qu'on comprenne bien que l'amour de la beauté dont nous parlons ici n'a rien à voir avec un esthétisme, une espèce de dilection monomaniaque fin de siècle, laquelle de toute façon est tellement impossible que, vous le savez, des esseintes va finir par déboucher ensuite sur la trappe, hein, dans l'œuvre de Huysmans. Donc, de toute façon, quelqu'un qui voudrait s'enfermer dans une espèce de boîte d'onyx de la beauté est voué à se fracasser lui-même ou à fracasser la paroi. Donc c'est pas possible. Et vraiment, l'idée de beauté que je défends pour ma part, c'est celle-là. C'est celle, effectivement, d'une conjonction d'harmonie. C'est la beauté d'un dépassement, finalement.
Peut-être pourrions-nous à présent vous entendre lire vos poèmes, ceux que vous voulez partager avec nos auditeurs, à qui je rappelle qu'ils écoutent Les Mots d'Azur ou La Poésie en direct, et que mon invité est Marc-Henri Harfeu. À vous, Marc-Henri.
Depuis toujours, ce chant qui s'émerveille devant le vide et la muraille du haut jasmin. Depuis toujours l'imploration du miel, ce pur, irrémédiable amour brodé de mouches et de béances, et si solide comme la fumée du soir. Depuis toujours les mains étales offrant la nue gravure de l'abandon, et cette écharpe de caresse conservant de l'azur le long parfum d'éveil souriant d'infini.
Encore ?
Oui. Alors, je vais peut-être vous lire un poème totalement inédit pour l'instant.
D'accord.
Où il est question d'Annie Rixang, dont je vous parlais tout
d'accord,
à l'heure, puisque vous m'offrez la possibilité de lire encore quelque chose. Donc, ce sera dans un livre que j'ai intitulé « Tibet de l'âme ». Puis la montagne ouvre les bras. Et tu n'as plus qu'à suivre son appel, petite âme. Aussi ténue que les fils d'épilobe et les flocons de laine en fuite, les papillons pétales venus boire aux mousses et se poser sur tes joues, comme si toi aussi étais une source. Fragile, tenace et rieuse infinie de tant oser, pas à pas sur l'envol, Annie Rixang, errante et tendre sœur de l'outre-loin, ce lent pays de neige et de cuir fauve où tu chemines, aussi légère qu'une fine clochette au cou du vent.
J'aime beaucoup l'outre-loin. Belle trouvaille. Moi, je vais lire aussi, à mon tour, un de vos poèmes. Il manque un nom à la table du soir. Voici les nourritures dans le toujours de la lenteur. Les mains patientes à partager les signes clairs sur le linge blanc cerclé de lampes. Il manque un nom qui cherche son image entre les êtres de ce monde. Puisses-tu venir parmi les souffles et les reflets, ange égaré qui me regarde à travers moi comme un jardin caché sur l'air. Et donc quand j'ai lu ça, que je me suis mise à le lire à voix haute parce que c'est comme ça, moi, que j'aime lire les poèmes. Je lui ai presque trouvé des accents verléniens. Et c'est pas exactement le seul, d'ailleurs, qui m'ait fait cet effet. Est-ce que vous acceptez cette influence ? Est-ce que c'est conscient ? Est-ce que c'est recherché ?
Ce n'est pas du tout conscient, mais moi, je l'accepte volontiers parce que je pense vraiment que on n'est conscient qu'à moitié de ce qu'on fait, et que, en fait, quand on écrit, quelle que soit l'écriture, et d'une façon plus générale, quand on crée, quelle que soit la création, on est en fait un médium au sens propre du mot, c'est-à-dire un intermédiaire. On est un intermédiaire entre quelque chose dont on est à l'écoute et ce qui va l'objectiver. Donc, on reçoit, évidemment, on accueille, on configure, on accepte ou non, on essaye de donner meilleure forme à ce qu'on reçoit, la meilleure forme possible, la meilleure expression, parce que c'est pas qu'une question formelle, bien sûr. Forme, c'est substance. Et du coup, on est parfois le plus mal placé pour savoir exactement ce qui est venu à nous. Donc, cette source verlénienne que vous décelez, je ne la connaissais pas, mais je ne la récuse absolument pas, parce que je crois vraiment qu'on ne se rend absolument pas compte à quel point on est dépassé par ce qu'on fait. On n'en est qu'un tout petit peu l'auteur, en réalité, si on veut dire très, très honnêtement les choses. Si je peux prolonger un court instant, moi je me rends compte que, bien sûr qu'on a un ton, on a une voix qu'on a acquise au fil des années, par une pratique, par une certaine direction de l'esprit, au double sens de ce terme, mais en même temps elle est venue, c'est-à-dire qu'on lui a permis d'être, on s'est donné une discipline, on s'est donné une volonté de porter cette expression à son meilleur, mais c'est quand même bien elle qui est venue. Et quand je dis bien elle qui est venue, c'est vraiment comme un visiteur ou une visiteuse qui a franchi des espaces parce qu'on lui a permis de venir, mais qui est autre, étranger. C'est un fil très très ténu qu'on tient là, de soi-même, qui laisse la possibilité qu'on soit hanté par quantité d'êtres, de résonance, de musicalité. J'aime beaucoup Verlaine, ça c'est évident, bien sûr, mais si vous voulez, je n'en ai jamais été conscient pour moi-même. Je crois que là, c'est la liberté du lecteur. Et en plus, ça me paraît pertinent au regard de ce que vous avez lu. Voilà.
De la musique avant toute chose, disait Verlaine. Et Marc-Henri, vous composez, vous, de la musique. Comment cette pratique complète ou augmente celle de la poésie? Et est-ce que composer de la musique rejoint l'écriture d'un poème?
Oui, oui, je pense que c'est une forme du poème, c'est une forme de poésie par un autre langage. Et la musique électroacoustique a ceci de particulier que comme elle délaisse la lutherie, les formes d'écriture de la composition issue de l'histoire occidentale, elle offre une très très grande liberté. Parce qu'on ne peut pas composer avec des do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, pour prendre l'exemple de la gamme, et tout le système des harmonies bien connues, même si on pourrait le faire aussi, hein, c'est évident, c'est pas exclusif, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller explorer justement l'inouï, et donc de totalement sortir de ce cadre pour être dans une naissance et une métamorphose des substances sonores. Deux substances sonores qu'on n'avait jamais entendues avant l'invention de ces instruments. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dedans. Donc ce sont vraiment les moyens d'une écoute totalement inattendue et permettant de franchir beaucoup de frontières.
Alors on va écouter un morceau de Marc-Henri Harfeu. venez d'entendre un extrait de la musique composée par Marc-Henri Harfeux, un extrait d'un morceau intitulé Adikat Raja, et il s'agissait d'un extrait de la partie 8 de cette œuvre. Et parlez-nous donc maintenant de la photographie, de la peinture, ces deux arts visuels que vous explorez aussi.
Alors, je vais peut-être commencer par la photographie, parce que c'est quelque chose que je pratique peut-être moins par rapport au reste, même si j'aime aussi. Ce que j'aime le plus dans la photographie, même si je ne le fais pas toujours, c'est les deux dimensions que vous avez indiquées. Bon, comme tout le monde, je prends des photos de témoignages, on va dire, de lieux, de personnes et de situations. Mais ça, c'est une activité qui est, je dirais, une façon de documenter sa propre vie que chacun d'entre nous pratique. Mais j'aime beaucoup, effectivement, quand je fais des petites œuvres éphémères, garder une trace, parce que sinon elle disparaîtrait complètement. Et puis j'aime beaucoup aussi une photographie abstraite où je me suis appris une véritable écriture avec les appareils photo et les téléphones en bougé pour complètement dépouiller la figure de ses traits et faire apparaître autre chose. Alors ça, c'est une approche qui m'intéresse beaucoup parce qu'on arrive vraiment à, selon l'appareil dont on dispose, et même un iPhone d'ailleurs, ou un smartphone d'une autre marque, peu importe, on arrive à trouver des grammaires, on arrive à trouver des, presque j'ai envie de dire, des enchaînements de gestes qui permettent de trouver quelque chose d'intéressant. Et puis ce qui m'intéresse aussi pas mal depuis maintenant, on va dire 3-4 ans, c'est lorsque je suis sur certains itinéraires de ne pas hésiter à m'arrêter en marchant dans la rue pour photographier au sol des choses qui se passent, des ombres, des reflets. Je le fais vraiment sans me dire « Ah tiens, je vais faire une œuvre ». Non, je le fais parce que j'ai envie de le faire et de rencontrer des présences, des étonnantes micro-manifestations du monde qui sont aussi bouleversantes que de voir certains très grands panoramas, par exemple. Quant à la peinture, c'est aussi une manière de mener cette exploration de l'énigme des choses, de l'énigme de l'être. Et en fait, à travers les formes qui naissent, de rencontrer de l'émotion, de rencontrer un dévoilement qui dépasse la simple objectivité comment dirais-je, chromatique, formelle, matérielle d'une peinture, hein, voilà. C'est un chemin aussi.
Alors je voudrais en venir maintenant au verger du cercle dévoré. C'est un recueil, un ouvrage que vous avez écrit au moment du décès de votre mère. Des poèmes évidemment très touchants. Et j'aimerais que les auditeurs en profitent. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire ces petits extraits que j'ai sélectionnés ?
Elle regarde un dé à coudre de neige, elle qui est simple visage, si simple, sur l'oreiller des heures. Est-elle surprise ou passionnée ? Ou bien plus loin encore dans la mémoire blanche où des figures nouent et dénouent des actes familiers ? D'une étrange beauté pure, comme une goutte de raisin dans la lumière. Puis, le dernier poème avant l'absence, parole à contre-jour en ce dimanche où rien ne pressentait le nom soudain dans la lumière, comme si la chaux d'un autre jour inexistant s'était versée dans celui-ci. Il manque un nom à la table du soir. Voici les nourritures dans le toujours de la lenteur, les mains patientes à partager les signes clairs sur le linge blanc cerclé de lampes. Il manque un nom qui cherche son image entre les êtres de ce monde. Puisses-tu venir parmi les souffles et les reflets, ange égaré qui me regarde à travers moi comme un jardin caché sur l'air. Ma mère tient dans ma main comme un lampion, un galet, un rameau. une abeille habillée de pollen. Je la berce dans ma paume, la protège d'un poème, me souvenant de son visage des derniers jours quand elle était neige, aussi fine qu'un pétale sur le bord d'un verre.
Merci beaucoup pour ces bouffées de tendresse contenues dans vos mots. Christine Durive-Brucker, qui elle aussi est lyonnaise, sur le site de recours au poème, dans une recension de ce livre, qui je le rappelle est intitulé « Verger du cercle dévoré » et qui est paru aux éditions Alcyone, dont sont extraits donc les poèmes que vous avez entendus. Christine Durive-Brucker donc écrit ceci. En une longue et sublime promenade poétique, il revisite des endroits du jamais plus. Marc-Henri Harfeu nous conduit dans ce labyrinthe de l'absence où s'éloignent lentement les traits du vivant, les champs de couleurs et l'innocence de l'éternité. Elle écrit aussi un peu plus loin, Marc-Henri Harfeu déplie en une lenteur poétique lumineuse autant qu'initiatique ce cheminement du deuil dans la complicité du très haut silence et des recoins muets de la maison. Il en médite l'irréversible blessure, le met en musique et en espace, et ainsi le revêt d'images sensibles, intenses, qui scandent la traversée de l'épreuve et lui donnent substance. Alors nous saluons Christine Durive-Brucker au passage et on la remercie pour cette recension qui met bien en valeur le texte de Marc-Henri Harfeu. Nous allons passer à un autre livre. J'aimerais bien vous entendre lire des extraits d'un livre intitulé « Lueur par le silence ». On y revient, au silence.
De quelle horloge déshabillée le bleu du jour se souvient-il ? On dirait qu'un visage se retourne à ce rien, brouillard disparaissant comme un appel au long du fleuve. On dirait si l'on veut qu'on serait tel ou tel, ou ceci, ou cela. Ce rosier dévorant le rideau immobile, un arbre sous la lune. Peut-être un personnage. Mais en ce jeu perdu, seulement le sable d'un reflet, ou l'approche à l'envers d'une possible figure.
Je vais maintenant passer au recueil paru aux éditions Souffle, intitulé « Patience de l'horizon », et je vais vous en lire un bref extrait. Dis-moi, toi qui surviens dans le désert de l'heure, dis-moi ce que tu cherches au nombre des étoiles, qu'un seul instant, à l'épaulement du monde où se perçoit le froid du seuil ouvert, se donne à lire. Le signe clair de tout lointain, par souffles avec les roses, par vagues avec les vagues, dans la finesse en effacement. Alors, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu plus, oui, de ce livre, Patience de l'horizon, qui semble décrire et faire partager une longue méditation, au bout de laquelle, peut-être, nous serait offerte une révélation.
Patience de l'horizon, le titre est programmateur, si je puis dire, mais il a été trouvé après. Et c'est vrai que c'est en fait un mouvement de méditation parce que, à cette époque, j'étais en train de chercher sur un axe déjà, quelque chose qui s'est confirmé par la suite beaucoup plus quand je suis entré dans une dimension qu'on pourrait qualifier de plus spirituelle. J'étais en train de chercher, effectivement, par ce questionnement du monde, un seuil, un interstice, un passage permettant de faire que cette longue veille, parce que j'étais vraiment dans le sentiment d'une longue veille, comme un guetteur devant cet horizon, que ce guetteur, par son regard, ne cessait d'interroger, de questionner, de mettre face à sa propre attente. Et donc, oui, c'était vraiment une traversée qui s'accomplissait là, qui était en quelque sorte, on pourrait dire, la marche liminaire de ce voyage qui est pour moi l'écriture poétique et au-delà d'elle l'existence que j'essaye de mener. Donc ce poème-là, il en est effectivement témoin et il est cette recherche que ce tout petit interstice devienne perceptible. Et il est né d'un paysage d'ailleurs, hein, ce poème. Il est né d'un paysage bien précis que j'aime énormément, qui est tout simplement la vue du lac Léman quand on est sur la rive de Thonon-les-Bains, dans un endroit vers le soir qui devient assez sauvage. Il n'y a plus grand monde, il y a des arbres, un bord de lac qui est fait de petites criques de galets où il y a beaucoup de gens qui viennent se baigner, se reposer dans la journée. Puis vous avez vraiment ce paysage qui est en profondeur vers l'autre côté du lac avec le Piémont et puis le Jura derrière. Et puis quand il y a un peu de nuages, le sentiment vraiment de l'appel de ce que Bonnefoy appelait l'arrière-pays, hein. Et là, pour le coup, c'est pas un simple leurre, l'arrière-pays. Ça devient vraiment un pressentiment.
Je rappelle à nos auditeurs que vous écoutez Les Mots d'Azur ou la poésie en direct et que ce soir, mon invité est le poète lyonnais Marc-Henri Harfeu. Alors Marc-Henri, on a parlé de votre poésie, musique, photographie, peinture, mais vous êtes aussi enseignant. Est-il facile dans un cadre scolaire de faire apprécier la poésie ou encore la musique? Comment vous y prenez-vous pour initier des élèves et les ouvrir à un domaine que bien souvent ils considèrent comme, et j'ouvre les guillemets, pas pour eux?
Ben, je crois que si on veut mener des élèves quelque part, quel que soit d'ailleurs l'enseignement qu'on leur donne, il faut leur donner le sentiment qu'ils sont invités. Si on donne d'emblée le sentiment qu'on a souvent connu quand nous étions élèves dans nos classes autrefois, qu'on est de toute façon indigne et incapable, rien ne se passera, bien évidemment. Alors que si on donne le sentiment aux élèves qui sont invités, il y a toujours, peut-être pas pour tout le monde, au même calendrier et à la même horloge, mais il y a toujours quelque chose qui va se passer, qui va passer. Quant à la poésie elle-même, par exemple, ou à la musique, je crois qu'il ne faut pas hésiter à faire des surprises. Soit parce qu'on peut dans un cours, moi j'enseigne la philosophie comme vous savez, on peut dans un cours de philosophie exprimer des questions philosophiques à travers des textes littéraires et de la poésie, d'une part, et d'autre part parce que parfois il m'arrive de faire carrément la surprise de la lecture d'un texte. C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec l'intention du jour et du cours, mais qui va... donner le sentiment aux élèves que quelque chose s'est passé. Et l'un de mes plus beaux souvenirs, à cet égard, si je peux me permettre d'ajouter cela, c'était il y a quelques années, je faisais mon cours sur la religion. Alors, mon principe était, dans le contexte que je m'étais fixé, il était double, à la fois de faire une sorte de phénoménologie de la conscience religieuse pour demander qu'est-ce que c'est qu'une conscience religieuse, et puis d'essayer d'orienter les élèves, quel que soit leur sentiment, leur adhésion à une culture religieuse ou pas, leur athéisme éventuel, leur scepticisme, leur indifférence, bon, peu importe, leur montrer qu'il peut y avoir différentes formes, dont certaines absolument sinistres, évidemment, on le sait historiquement et de façon contemporaine. Puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intéressantes, c'est celle de la spiritualité, justement. Et j'avais lu à cet égard un petit florilège de textes à des élèves d'une classe de scientifiques. C'était des textes de mystiques de différentes religions, du judaïsme, de l'islam, du christianisme, essentiellement. Et je me rappelle d'une jeune fille qui manifestement n'était pas du tout, motivée par une culture spirituelle, mais qui avait simplement dit « Mais qu'est-ce que c'est beau ?» Et ça m'avait beaucoup touché parce que je m'étais dit, c'est ça qu'il faut essayer de faire.
Marc-Henri, vous habitez Lyon, une grande ville, avec une vie culturelle riche. De nombreux poètes habitent Lyon, certains que j'ai déjà invités dans cette émission d'ailleurs, comme Pauline Catherino, Emmanuel Campo, Patrick Dubost, Béatrice Bréraud, pour n'en citer que quelques-uns. Est-ce que vous vous sentez proche de certains de ces poètes? Est-ce que vous échangez avec certains d'entre eux? Et est-ce que vous profitez de cette vie culturelle lyonnaise?
Oui. Alors, il y a des poètes avec lesquels j'ai pas eu vraiment d'échange, mais que j'apprécie beaucoup. Je pense par exemple à Patrick Dubost, dont j'aime beaucoup le travail, l'écriture, même si je n'ai pas eu l'occasion d'avoir de véritables conversations, parce que parfois, on a chacun des vies qui font qu'on se croise plus qu'on ne se rencontre, mais ça n'a aucune importance, parce que de toute façon, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il écrit. Je connais Pauline Catherino, puisqu'on avait même fait une lecture en commun, il y a déjà des années, dans un lieu qui s'appelait le Patadôme, qui était un lieu assez extraordinaire, d'ailleurs tout en bois. Je suis très ami aussi avec Georges Chiche, avec Chantal Ravel, avec Valérie de Canachisi, qui m'émeut toujours autant par sa personne extraordinaire, comme par sa poésie. C'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément et je profite de cette occasion pour pouvoir le dire parce que c'est vraiment une grande dame, je trouve. Et puis j'aime beaucoup aussi Lorraine Pobel, qui a d'ailleurs beaucoup et très généreusement invité les poètes et leur a donné la voix depuis des années et des années dans différents lieux à Lyon et continue de le faire dans un lieu qui s'appelle le Carré 30. Enfin voilà, ça fait plein de gens. Et puis il y a aussi des figures chères. Je ne peux pas citer tout le monde, puis faire un répertoire, c'est un peu idiot. Je ne mentionne que quelques noms en passant. Mais il y a une figure à laquelle je tiens particulièrement, parce que c'est quelqu'un qui nous a quittés, c'est Marie-Ange Sébastie, et qui, elle, était une amie très proche et une personne dont l'œuvre est pour moi d'une limpidité et en même temps d'une pureté minérale absolument extraordinaire. Il y a une exigence, une sobriété et en même temps un accomplissement dans ce qu'elle écrit qui est mais absolument sidérant, de tenue, de mesure, d'exactitude. Il y a jamais rien de trop ou de manque. C'est vraiment une œuvre absolument stupéfiante.
Alors, je suis toujours en train de préparer une émission consacrée à Marie-Ange Sébastie, mais pour rassembler tous les témoins et les gens qui pourraient y participer, comme Marie-Thérèse Perrin, comme pas mal d'autres gens, il me faut du temps. Un jour, il y aura une émission consacrée à Marie-Ange Sébastie, qui était d'origine corse, et qui parle très bien de la Corse. Voilà, eh bien, nous arrivons, hélas, au terme de cette émission, Marc-Henri Harfeu. On vous écouterait pendant des heures, mais l'émission n'est pas extensible. Et donc, il faut que je rende l'antenne. Il me reste donc à vous remercier chaleureusement pour votre accueil et le temps pris pour cet entretien, riche de vos réflexions et de vos éclairages. C'était Les mots d'Azur ou la poésie en direct. Je vous retrouverai le mois prochain, c'est-à-dire l'année prochaine, avec un nouvel invité. Je vous souhaite, chers auditeurs, une fin d'année pleine de joyeuses retrouvailles ainsi qu'un excellent début d'année 2024. Et d'ici janvier, chers auditeurs, portez-vous bien. Au revoir.
Au revoir et très belle fin d'année à toutes et tous, en espérant que 2024 sera plein d'horizons qui s'éclaircissent. On l'espère.